Alors qu'approchaient les fêtes de fin d'année, Brady se découvrit d'une humeur qu'il n'avait pas éprouvée depuis sa plus tendre enfance. Cette humeur lui était si étrangère que c'est seulement longtemps après que les décorations de Noël eurent disparu et alors que la Saint-Valentin approchait, qu'il réalisa ce que c'était. Du contentement. Une partie de lui combattit ce sentiment, le considérant comme une petite mort. Mais une autre partie de lui voulait l'accepter, l'accueillir même. Et pourquoi pas? C'était pas comme s'il était encore coincé dans la chambre 217 ou même dans son propre corps. Il pouvait sortir quand il voulait, soit comme passager, soit comme conducteur. Il devait veiller à ne pas occuper la place du conducteur trop longtemps, ni à s'attarder trop longtemps. La conscience profonde, visiblement, était une ressource limitée. Quand elle était épuisée, elle était épuisée. Dommage. Si Hodges avait continué ses visites, Brady aurait eu un autre but pour grandir. Inciter Hodges à prendre le zapit dans le tiroir de sa table de nuit et à le regarder, entrer en lui et y implanter ses poissons-pensées suicidaires. Ça aurait été comme réutiliser le parapluie bleu de débit pour l'influencer. Sauf que cette fois, les suggestions étaient beaucoup plus puissantes. Pas exactement des suggestions, plutôt des ordres. Le seul problème avec ce plan, c'était que Hodges avait cessé de venir. Il s'était pointé début septembre, juste après la fête du travail. Il avait déballé toutes ses conneries habituelles. « Je sais que t'es là, Brady, j'espère que tu souffres, Brady. » « Dis, Brady, t'es vraiment capable de déplacer des objets sans les toucher, laisse-moi voir comment tu fais, et puis terminé. » Brady présumait que la disparition de Hodges de sa vie était la source réelle de ce contentement inhabituel, et pas exactement bienvenu. Hodges avait été comme un gratteron coincé sous sa selle, le faisant enrager et galoper. Maintenant, le gratteron avait disparu, et il avait tout loisir de paître en liberté s'il voulait. Et c'était un peu ce qu'il faisait. Ayant désormais accès aussi bien au compte en banque du Dr B et à son portefeuille d'actions qu'à son esprit, Brady se lança dans une frénésie d'achat de matériel informatique. Le Babi retira l'argent et paya. Z-Boy livra l'équipement à Freddy dans sa crèche crade. « Elle mérite vraiment d'être relogée, pensa Brady. Il faudrait que je m'occupe de ça. » Z-Boy livra aussi le reste des zapites qu'il avait barboté à la bibliothèque et Freddy amplifia les démos du Fishing Hall sur tous, moyennant finance naturellement. Et même si le prix demandé était élevé, Brady le paya sans sourciller. C'était le pognon du doc, après tout, le blé de Babino. Quant à ce qu'il ferait des consoles modifiées, Brady ne savait pas encore. Au final, il aurait peut-être envie de se doter d'un ou deux drones de plus, mais il ne voyait pas l'intérêt de mettre la barre plus haut pour le moment. Il commençait à comprendre ce qu'était le contentement, l'équivalent émotionnel de la latitude des chevaux, où tous les vents tombent et tu dérives. C'est ce qui arrive quand on est à court de but pour grandir. Cet état de choses dura jusqu'au 13 février 2015, lorsque l'attention de Brady fut attirée par une actualité au journal télévisé News at Noon. Les deux présentateurs, hilar devant deux bébés pandas joueurs, affichèrent brusquement leur mine « Oh merde, ce que c'est horrible !» lorsque l'image changea, les pandas cédant la place à un logo en forme de cœur brisé. « Triste Saint-Valentin dans la banlieue de Sous-Wickley !» annonça la partie féminine du duo. « C'est exact, Betty !» répondit sa contrepartie masculine. « Deux survivants du massacre du City Center, Krista Countryman, 26 ans, et Kiss Frias, 24 ans, se sont suicidés ensemble au domicile de Mademoiselle Countryman. » Betty enchaîna. Ken, les parents sous le choc confient que le couple avait prévu de se marier en mai de cette année, mais tous deux avaient été grièvement blessés dans l'attaque perpétrée par Brady Hartsfield, et leur souffrance constante, physique aussi bien que morale, s'est apparemment révélée trop dure à supporter. Nous écoutons Frank Denton, notre envoyé spécial. Brady était maintenant en alerte rouge, redressé dans son fauteuil autant qu'il le pouvait. Le regard brillant. Pouvait-il légitimement revendiquer ces deux-là? Il pensait que oui. Ce qui signifiait que son score du City Center venait de passer de 8 à 10. Pas encore la douzaine, mais oh, pas mal! L'envoyé spécial Frank Denton, arborant lui aussi sa plus belle mine « Oh merde alors !», se fendit de quelques minutes de blabla, Puis son visage céda la place à celui du pauvre vieux papa de la fille countryman, qui lut le mot d'adieu laissé par le couple. Il bredouilla quasiment tout du long, mais Brady pigea l'essentiel. Ils avaient eu une vision magnifique de la vie dans l'au-delà, où leurs blessures seraient guéries, leur fardeau de souffrance allégé, et où ils pourraient être mariés en parfaite santé par Jésus-Christ, leur Seigneur et Sauveur.
« Oh, quelle tristesse !» commenta le présentateur à la fin du reportage. « Quelle tristesse !»«
Vraiment terrible, Ken !» renchérit Betty.
Puis, l'écran derrière eux afficha l'image d'une bande d'imbéciles en robe et costume de mariée, debout dans une piscine. Leur mine triste se désintégra aussitôt, et la mine joyeuse revint.
Mais voici de quoi nous redonner le sourire. 20 couples ont décidé de se marier dans une piscine à Cleveland, où la température est de moins 6 degrés.
J'espère que leur amour était aussi brûlant que le chantait Elvis Presley, commenta Ken en élargissant son sourire sur ses dents parfaites.
Brrr ! Écoutons les détails avec Patty Newfield.
Combien je pourrais en avoir de plus ? Se demanda Brady. Il était en surchauffe.
J'ai 9 zapites augmentés,
plus les 2 que détiennent mes drones, et celui que j'ai dans le tiroir de ma table de nuit. Qui a dit que j'en avais fini avec ces connards de chercheurs d'emploi? Qui a dit que je pouvais pas exploser mon score?
Durant sa période de latence, Brady continua à s'intéresser au destin de Zapit Inc., en voyant Z-Boy vérifier les alertes Google une ou deux fois par semaine. Les conversations à propos de l'effet hypnotique de la démo du Fishing Hole et l'effet moindre de celle des Whistling Birds se calmèrent et furent remplacés par des pronostics sur le temps qui restait à la compagnie Zapit avant de couler. La question ne se posait plus de savoir si elle coulerait. Lorsque Sunrise Solutions racheta Zapit Inc., un blogueur, s'intitulant Electric Whirlwind, écrivit «
Waouh ! On dirait deux malades du cancer n'ayant plus que 6 mois à vivre, décidant de convoler en juste noce. »
La personnalité fantôme de Babineau était maintenant bien établie. Et ce fut Dr. Z qui se chargea de rechercher les survivants du massacre du City Center pour le compte de Brady, établissant la liste des blessés les plus graves et par conséquent les plus vulnérables aux pensées suicidaires. Quelques-uns d'entre eux, tels Daniel Starr et Judith Loma, étaient encore confinés dans leur fauteuil roulant. Loma pourrait peut-être en sortir un jour, Starr jamais. Et puis, il y avait Martin Stover, paralysé à partir du cou, et qui vivait avec sa mère à Ridgedale.
« Ce serait leur faire une faveur, » pensa Brady.
« Oui, une vraie faveur. » Il décida que la maman de Stover serait un bon début. Sa première idée fut de charger Z-Boy de lui envoyer un Zapit par la poste.
« Un cadeau gratuit pour vous !»
Mais comment pouvait-il être sûr qu'elle ne le jette pas tout bonnement à la poubelle ? Il n'en avait que 9 et ne voulait pas courir le risque d'en perdre un seul. L'effet amplifié lui avait coûté, enfin à Babineau, beaucoup d'argent. Mieux vaudrait envoyer Babineau en mission personnalisée. Vêtu d'un de ses costumes sur mesure, mis en valeur par une sobre cravate foncée, il inspirait bien plus confiance que Z-Boy dans son Dickies vert chiffonné. Et c'était le genre de vieux beau que les nénettes comme la mère de Stover avaient tendance à kiffer. Tout ce que Brady avait à faire, c'était de monter une histoire crédible. Un truc à propos d'un essai de commercialisation, peut-être ? Ou une histoire de club de livres ? Un jeu concours ? Il soupesait toujours les scénarios possibles, il n'y avait pas le feu, quand son alerte Google rapporta une mort annoncée. Sunrise Solutions avait dit « ciao ». On était début avril. Un fiduciaire avait été désigné pour mettre en vente les actifs disponibles et une liste des biens mobiliers serait bientôt publiée sur les sites de vente habituels. Pour ceux qui n'avaient pas la patience d'attendre, une liste de toutes les merdes invendables de Sunrise Solutions était disponible dans leur déclaration de faillite. Brady trouva ça intéressant, mais pas assez intéressant pour faire examiner cette liste par Dr. Z. La liste devait probablement comprendre des cartons entiers de Zapit, mais il en avait 9 en sa possession et ça suffirait sûrement pour s'amuser. Un mois plus tard, il se ravisa. L'une des rubriques les plus populaires de News at Noon s'intitulait « Un petit mot de Jack ». Jack O'Malley était un gros vieux dinosaure qui avait dû faire ses débuts du temps de la télé en noir et blanc et qui, à la fin de chaque journal télévisé,
dégoiser pendant au moins 5 minutes sur n'importe quel sujet occupant ce qui lui restait de cerveau. Il portait d'énormes lunettes à monture noire et ses bajoues tremblotaient comme de la gelée quand il parlait. D'habitude, Brady le trouvait plutôt marrant, un peu de détente comique. Mais le petit mot de Jack de ce jour-là ne le fit pas rire. Il lui ouvrit de tout nouveaux horizons.
« Les familles de Krista Countryman et Kiss Frias ont été inondées de messages de condoléances à la suite du reportage diffusé par notre chaîne il y a peu. »
commença Jack de sa voix nasillarde à la Andy Rooney.
« Leur décision de mettre fin à leur jour, alors qu'ils ne pouvaient plus supporter une souffrance constante que rien ne pouvait soulager, a ranimé le débat sur l'éthique du suicide. Elle nous a aussi rappelé, malheureusement, l'existence du lâche individu qui a causé cette souffrance, un monstre du nom de Brady Wilson Hartfield. »
« C'est moi, » songea Brady joyeusement. « Quand il te désigne par ton nom tout entier, tu peux être sûr que t'es un authentique croque-mitaine. »«
S'il existe une vie après celle-ci, »
poursuivit Jack, ses sourcils incontrôlables à la Andy Rooney, se rejoignant au centre, ses bajoues tremblotant,
« Brady Wilson Hartsfield paiera le juste prix pour ses crimes lorsqu'il s'y retrouvera. » En attendant, concentrons-nous plutôt sur la lueur d'espoir venue teinter ce sombre tableau de malheur, car il y en a bel et bien une. Un an après son lâche déchaînement de violence au City Center, Brady Wilson Hartsfield a tenté de perpétrer un crime encore plus odieux. À l'occasion d'un concert, rassemblant des milliers d'adolescents, il a introduit clandestinement une grande quantité d'explosifs dans l'auditorium Mingo, avec l'intention d'assassiner les enfants venus là pour se divertir. Son plan a été déjoué par l'inspecteur de police à la retraite William Hodges, aidé par une femme courageuse du nom de Holly Gibney, qui a fracassé le crâne du minable animé de tendance homicide avant qu'il ne puisse déclencher le détonateur.
C'est là que Brady perdit le fil. Une femme nommée Holly Gibney lui avait défoncé le crâne, manquant le tuer. C'était qui, putain, cette Holly Gibney ? Et pourquoi est-ce que personne lui en avait jamais parlé au cours des 5 ans écoulés depuis qu'elle lui avait éteint ses lumières et l'avait expédié dans cette chambre? Comment c'était possible?
Oh, très facile, conclut-il. Quand ça avait fait la une, il était dans le coma. Et plus tard, se dit-il, j'ai simplement présumé que c'était soit Hodges, soit son nègre tondeur de pelouse. Dès qu'il aurait un moment, il chercherait Gibney sur Internet. Mais ce n'était pas elle qui importait. Elle appartenait au passé. Le futur était une idée splendide qui lui était venue, comme lui étaient venues toutes ses plus belles inventions. Tout entière, achevée, ne requérant pour être parfaite que quelques rares modifications en cours de réalisation. Il alluma son zapit, trouva Z-Boy, occupé à distribuer des magazines aux patients dans la salle d'attente de gynécologie obstétrique, et l'expédia à l'ordinateur de la bibliothèque. Puis, Brady le fit dégager du siège conducteur et prit le contrôle, courbé en avant, plissant les yeux de myope de Hal Brooks pour scruter l'écran. Sur un site web appelé Active Faillite 2015, il trouva une liste de tout le bazar que Sunrise Solutions avait laissé dans son sillage. Il y avait du bric-à-brac d'une dizaine de compagnies différentes, rangées par ordre alphabétique. Zapit était la dernière, mais de l'avis de Brady, certainement pas la plus dérisoire. En tête de liste de leurs actifs figuraient 45 872 Zapit Commander, prix de vente conseillé $189.99. Ils étaient vendus par lot de 400, 800 et 1000. En dessous, en lettres rouges, figurait l'avertissement concernant les défauts que présentait une partie de la cargaison. Mais la plupart sont en parfait état de marche. L'excitation de Brady mettait à mal le vieux cœur de Biblial. Ses mains quittèrent le clavier et se contractèrent en poing. Pousser d'autres survivants du City Center à se suicider devenait dérisoire en comparaison de l'idée grandiose qui s'était emparée de lui. Terminer ce qu'il avait commencé ce soir-là au Mingo. Il se voyait déjà écrire à Hodges sous le parapluie bleu de débit. « Tu croyais m'avoir arrêté? Tu t'es gouré ?» Comme ce serait merveilleux. Il était convaincu que Babineau avait largement de quoi acheter des zapites pour tous les gens présents ce soir-là. Mais comme il allait devoir gérer ses cibles une par une, inutile de prévoir trop grand. Il se fit amener Babineau par Z-Boy.
Babineau ne voulait pas venir. Il avait peur de Brady maintenant. Ce que Brady trouvait délicieux.
« Vous allez m'acheter quelques marchandises, » lui dit Brady.
« Vous achetez quelques marchandises ?»
Docile, toute peur envolée, Babineau était entré dans la chambre 217. Mais c'était maintenant Dr. Z qui se tenait debout, épaule voûtée devant le fauteuil de Brady.
« Oui, vous allez déposer de l'argent sur un nouveau compte. Je crois que nous allons le prendre au nom de Games Unlimited. Games avec un Z. »
Avec un Z, comme moi.
Le chef du service neurologie de Kinner réussit à esquisser un petit sourire hébété.
Très bien. Disons 150 000 dollars. Vous allez aussi installer Freddy Linklater dans un nouvel appartement plus grand, pour qu'elle puisse recevoir les marchandises que vous achèterez et travailler dessus. Elle va avoir du boulot.
Je vais l'installer dans un nouvel appartement plus grand pour...
Fermez-la et écoutez-moi. Il va aussi lui falloir plus d'équipement.
Brady se pencha en avant. Il apercevait un avenir étincelant.
Un avenir dans lequel Brady Wilson Hartsfield serait couronné vainqueur des années après que le vieux flic s'imaginait avoir remporté la partie. L'appareil le plus important s'appelle un répéteur de signal.